Bienvenue dans l'accent des autres. Comme chaque semaine, voici l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours, vu par les médias francophones publics. C'est votre rendez-vous avec la Radio-Télévision Suisse, avec RFI, avec aussi Radio-Canada, France Bleu et la RTBF. On va commencer aujourd'hui avec un double coup d'arrêt en France, Éric Valmire, dans le monde des médias. Et d'abord dans le monde du prêt-à-porter.
La fermeture de Camaïeu, triste nouvelle pour l'industrie textile en France. L'arrêt de la série télévisée Plus belle la vie, triste nouvelle pour les acteurs et pour leur public.
En Belgique, le ministre de la Justice est placé sous sécurité renforcée. Il a fait l'objet de menaces d'enlèvement attribuées à la mafia de la drogue, Jacques Kremers.
Oui, et pour le ministre Vincent Van Kickenborne, c'est une conséquence de la lutte contre les narcotrafiquants et du démantèlement d'un réseau crypté qui a permis de porter un coup dur aux malfaiteurs.
Au Canada, 2 ans après la disparition d'une autochtone victime de racisme dans un hôpital québécois, leur Mélanie Hood était aux commémorations ces derniers jours.
Oui, des cérémonies se sont déroulées cette semaine pour souligner le 2e anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. La famille a également déposé une poursuite pour obtenir réparation.
Nous avons aussi retenu ce procès en Guinée-Conakry, Nicolas Sûr, le procès du massacre du 28 septembre 2009. Il a commencé ce mercredi.
Une dizaine de responsables militaires et politiques doivent répondre de la tuerie perpétrée lors d'un rassemblement de l'opposition dans le plus grand stade de Conakry.
Enfin, les femmes devront travailler une année de plus en Suisse, Pierre Anchoffat, jusqu'à 65 ans, comme les hommes.
Oui, le peuple a validé d'extrême justesse la réforme de l'assurance vieillesse, une réforme qui corrige cette particularité en Europe. Mais il reste beaucoup à faire pour renforcer l'égalité au profit des femmes cette fois.
Et voilà donc pour les titres de la semaine. Deux pages qui se tournent donc d'abord en France. La fin d'une série qui aura marqué la télévision, Plus belle la vie, s'arrête en novembre prochain sur France 3. Et puis la fin aussi pour l'enseigne textile Camaïeu, 2600 salariés pour 511 magasins. La société de prêt-à-porter était en redressement depuis le mois d'août dernier et elle croulait littéralement sous les dettes, Éric Valmire.
Fleuron de l'industrie textile régionale dans le nord de la France avec un siège social à Roubaix, Camaïeu ferme donc boutique. L'annonce assomme les commerçants du centre-ville d'Arras, Vanessa Lamar de France Bleu Nord.
Accrochée à son téléphone, la responsable du magasin vient d'apprendre la nouvelle. 22 ans qu'elle gérait la boutique, ses clientes occasionnelles ou fidèles sont attristées.
Bon, je pense surtout à toutes les personnes qui vont se retrouver au chômage. C'est une triste fin, ouais.
Et puis c'est encore une enseigne qui ferme. C'est vrai qu'on a eu Fil d'Art il y a quelques mois. C'est des enseignes régionales et c'est un petit peu malheureux que ça se perde.
Dans la boutique de vêtements Addict, juste en face de Camaïeu, Justine, vendeuse et solidaire des salariés de l'enseigne, inquiète aussi pour l'avenir du textile.
Ça amène de la clientèle, ça met de la vie dans les centres. Donc c'est un peu dommage qu'une grande enseigne comme ça ferme et que ça n'annonce pas des bonnes nouvelles pour la suite malheureusement.
3 personnes travaillaient dans la boutique Camaïeu d'Arras, une responsable, son adjointe et une vendeuse.
Camaïeu à Arras, c'est une histoire de plus de 20 ans, presque l'âge de la série Plus belle la vie, qui s'arrête elle aussi, cette série télé, après 4500 épisodes sur le dernier tournage, Fabien Ledu de France Bleu Provence.
Coupé, super, merci beaucoup.
Des acteurs qui s'embrassent dans un mélange de sourires et de larmes. Léa François joue le rôle de Barbara dans la série depuis 14 ans.
D'un côté, c'est que de la joie et de la gratitude pour cette aventure de folie qu'on a vécue pendant toutes ces années. Et d'un autre côté, évidemment que ça nous chamboule totalement, c'est normal.
Le sentiment d'un grand vide qui s'installe pour Laurent Kérusoré, alias Thomas, depuis le premier épisode de la série.
Ça reste pour nous d'une tristesse absolue, perdre 18 années d'habitude, d'amis. 18 ans, je pourrais venir sur le plateau les yeux bandés.
18 années de travail pour toute l'équipe de techniciens, dont David.
C'est vrai que c'est un peu compliqué quand même.
Et ce dernier épisode, Olivier, sera diffusé le 18 novembre prochain.
Oui, et ce sera sur France 3. En Belgique, à présent, le ministre de la Justice, son épouse et ses enfants sont donc placés sous sécurité renforcée. Ce sont des menaces d'enlèvement qui ont justifié cette mesure policière. Jacques, c'est la mafia de la drogue qui est pointée du doigt.
Pour le ministre, c'est le milieu des narcotrafiquants qui est à l'origine des menaces. Il rappelle les résultats de la lutte contre la mafia de la drogue. Des saisies pour des milliards d'euros, plus de 1000 suspects interpellés suite au décodage d'une messagerie cryptée ou encore un accord passé avec Dubaï où se cachent les barons de la drogue. On écoute Vincent Van Kickenborne.
Je pense qu'on est arrivé dans une nouvelle situation. C'est la situation du narcoterrorisme. C'est le monde souterrain criminel qui essaie de déstabiliser la société et qui essaient de s'en emparer. Nous avons plus d'enquêteurs que jamais qui y travaillent. Nous avons plus de magistrats que jamais qui y travaillent. Et nous sommes encore en train de recruter, c'est-à-dire la police et la justice. Donc tout est sur la table, on est en train de l'exécuter et pour moi c'est le plus important.
Le ministre dit vouloir poursuivre la lutte avec encore plus de conviction. L'enquête, elle, se poursuit. Plusieurs suspects ont été interpellés aux Pays-Bas. Une voiture a aussi été découverte à proximité du domicile du ministre, avec à l'intérieur des armes et des colsons qui auraient pu servir dans le cadre d'un kidnapping.
Oui, et par ailleurs, la police belge a aussi mené cette semaine une opération antiterroriste du côté d'Anvers. Elle visait, Jacques, un groupe de personnes soupçonnées de vouloir mener une forme de résistance armée contre le gouvernement.
Oui, les enquêteurs recherchaient des armes, mais les suspects sont également soupçonnés de tentatives d'attentats terroristes. Ils auraient envisagé de s'en prendre à des infrastructures de l'État, même si les services de sécurité n'évoquent pas un passage à l'acte imminent. C'est l'accumulation d'armes, parmi lesquelles des armes lourdes, qui a justifié l'intervention. Lors d'un échange de coups de feu, un suspect est décédé. Plusieurs autres ont été interpellés. Deux affaires distinctes qui n'ont pas de lien entre elles donc, mais qui donnent du grain à moudre à celles et ceux qui réclament plus de moyens pour la police. Une police judiciaire fédérale qui aujourd'hui doit faire des choix et donc laisser tomber certaines enquêtes. C'est ce que déclarait le procureur fédéral il y a seulement quelques mois.
Au Canada, on s'est souvenu cette semaine du décès d'une mère de famille autochtone dans des circonstances troublantes. Une affaire qui a véritablement bouleversé le Québec. Mélanie, la jeune femme de 37 ans, s'était filmée peu avant sa mort dans l'hôpital où elle était soignée.
Joyce Echaquan était une mère de famille atikamekw de 7 enfants. Lors de son séjour à l'hôpital, elle s'est filmée en direct sur Facebook. Dans la vidéo, elle dit être surmédicamentée. On entend une infirmière qui tient des propos dégradants et racistes à son égard. Joyce Echaquan est morte peu après. Cette affaire a soulevé l'indignation au pays. Voici le veuf de Joyce Echaquan, Carole Dubé, lors des cérémonies de commémoration.
C'est un bon moyen aussi d'envoyer le message que c'est pas réglé. J'avais peur qu'on l'oublie à petit feu.
La coroner qui a enquêté sur cette affaire a recommandé au gouvernement québécois de reconnaître l'existence du racisme systémique au sein des institutions.
Et 2 ans plus tard, la famille décide d'engager des poursuites.
Oui, des poursuites contre l'organisation responsable de la gestion de l'hôpital et aussi contre une docteure et une infirmière qui étaient présentes lors du décès de Joyce Echaquan. La famille réclame près de 2 700 000 $ en dommages, intérêts et en dommages punitifs, soit environ 2 millions d'euros. Pour l'avocat de la famille, Patrick Martin-Ménard, le racisme dont Joyce Echaquan a été victime a significativement aggravé le préjudice.
Bon, on se rappellera à la fois la vidéo d'appel à l'aide que Joyce a lancé quelques temps avant son décès, la façon dont elle a été traitée dans cette vidéo-là et toute la visibilité que ça a eue, de telle sorte que tout le monde maintenant connaît les circonstances du décès de Joyce. C'est très difficile pour la famille de vivre ça au quotidien.
La famille affirme que cette démarche se fait dans un esprit de guérison pour ceux qui ont été touchés par le drame afin d'éviter que ça se reproduise.
L'actualité judiciaire en Guinée, cette fois en Guinée-Conakry, avec un procès dont beaucoup désespéraient qu'il ait jamais lieu. 13 ans, jour pour jour après les faits, 11 anciens hauts responsables sont jugés depuis mercredi, Nicolas, jugés pour le massacre d'opposants perpétré le 28 septembre 2009.
Ce jour-là, des milliers de sympathisants de l'opposition sont rassemblés dans le plus grand stade de Conakry. La démonstration de force pacifique vise à dissuader le capitaine Dadis, porté au pouvoir par un coup d'État 9 mois auparavant, de se présenter à la prochaine présidentielle. Mais la manifestation tourne au carnage quand des éléments des forces de sécurité font soudainement irruption dans l'enceinte sportive. S'ensuit un déchaînement de violence qui durera plusieurs jours. Bilan, selon les Nations Unies, au moins 156 morts, 109 femmes violées, des centaines de blessés, des leaders de l'opposition sauvagement tabassés et laissés pour mort sur la pelouse ne s'expliquent toujours pas aujourd'hui comment ils s'en sont sortis.
11 personnes ont donc commencé à comparaître mercredi, Nicolas, devant la justice. Et c'est un procès inédit.
Oui, inédit, car l'impunité des crimes politiques est restée la règle en Guinée depuis l'indépendance. Ainsi, les atrocités du régime de Sékou Touré n'ont jamais été jugées. Inédit également par la qualité des accusés. Le capitaine Moussa Dadis Camara, exilé depuis qu'il a été chassé du pouvoir, est rentré pour l'occasion. Il assure ne pas avoir donné d'ordre et vouloir laver son honneur. À ses côtés, sur le banc des accusés, 10 autres responsables de haut niveau, dont certains avaient gardé ces dernières années d'importantes fonctions en Guinée. En organisant ce procès, la nouvelle junte au pouvoir à Conakry depuis la chute d'Alpha Condé souhaite envoyer un signal fort, celui que les temps ont changé.
Et après l'audience d'ouverture mercredi dernier, ce procès devrait reprendre mardi prochain. On va se quitter cette semaine en Suisse parce que le peuple suisse a décidé dimanche dernier d'assainir son assurance vieillesse. C'est un scrutin qui a fortement divisé le pays, 50,5% de oui seulement. Et surtout, Pierre-Han, un gros clivage entre les régions linguistiques.
Les six cantons francophones et la Suisse italienne ont en effet dit non à hauteur de 60%. Trois cantons alémaniques ont suivi les latins, mais la majorité germanophone a fait la différence pour valider cette réduction des prestations. On sait cette partie de la Suisse plus attachée à la responsabilité individuelle, alors que les latins comptent davantage sur un état social fort.
Ouais, et ce vote très serré, 30 000 voix d'écart à peine sur plus de 2,8 millions de votes exprimés. Eh bien, ça va sans doute laisser des traces.
Clairement oui, parce que la réforme des retraites n'est pas achevée. En Suisse, pour compléter la VS où les actifs cotisent pour les rentiers, nous avons un deuxième pilier obligatoire par capitalisation. Chacun cotise là pour ses propres vieux jours. Et là aussi, il faut l'adapter à l'espérance de vie qui s'allonge. Et pour le patron des affaires sociales, Alain Berset, ce tout petit oui doit vraiment être entendu par ceux qui rêvent de tailler davantage dans les prestations.
C'est un signal très clair à l'égard du Parlement. Tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la table comme réforme du deuxième pilier, où sont vraiment les progrès à obtenir pour les femmes, pour les bas salaires et puis pour les temps partiels? Je crois qu'il faut revenir au projet du Conseil fédéral et des partenaires sociaux. Parce qu'alors, avec ce qu'on a aujourd'hui sur la table, imaginez qu'on pourrait faire une majorité populaire. Eh bien, je crois que celles et ceux qui pouvaient y penser aujourd'hui doivent quand même constater que ça va être difficile.
Une claire mise en garde à la droite du Parlement qui veut durcir le compromis trouvé entre les partenaires sociaux. La baisse des rentes sera inévitable, mais coupé dans les mesures prévues pour adoucir le choc, cela paraît en effet aujourd'hui suicidaire. Échaudés par leur courte défaite, les syndicats et la gauche ne laisseront rien passer.
Pierre-Han Chauffat pour refermer l'accent des autres de cette semaine en Suisse. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Les médias francophones publics vous souhaitent une excellente fin de semaine. Radio-Canada, la radio-télévision suisse, RFI, France Bleu et la RTBF vous fixent rendez-vous si vous le souhaitez la semaine prochaine. À très bientôt.